avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux ouvrages qui pensent, font et écrivent l'histoire autrement. Dans l'œuvre du temps, publiée aux éditions de la Sorbonne, l'historienne Ludivine Bantini se penche sur un certain nombre de questions qui agitent sa discipline et au-delà le débat public, l'histoire n'est-elle que la science des faits? Du vrai peut-elle être objective et partant, l'historienne doit-elle être neutre? Ludivine Bantini sacrifie de manière très personnelle un exercice qui a d'illustres prédécesseurs, interroger la fonction et la finalité du métier d'historien. C'est sans doute une question que se pose aussi un autre brillant chercheur de la nouvelle génération. Romain Bertrand vient de publier au Seuil Le détail du monde, plongé dans l'histoire des savants, naturalistes, poètes et peintres qui ont su décrire la nature, les plantes, les bêtes sauvages et les paysages. Tout ce que nous ne savons plus faire, déplore Romain Bertrand, qui invite à retrouver une forme plus sensible de connaissance du monde. Et en studio pour débattre, Sonia Faure de Libération. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Et Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Même si ce soir de débat, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, quoique on va voir. Je vous propose de commencer par le livre de Romain Bertrand, Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, publié au Seuil dans la collection L'Univers historique. L'auteur est historien, directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po. Son objet, depuis plusieurs années, c'est l'histoire coloniale et singulièrement l'histoire de la présence européenne dans le sud-est asiatique au XVIe et XVIIe siècle. C'est aussi l'un des représentants de l'histoire globale et de l'histoire connectée. Son livre en 2015, Le long remords de la conquête, était un exemple du genre, partant d'un procès en sorcellerie à Manille en 1577 pour dérouler l'histoire de l'expansion occidentale dans la région, marquée par le remords, donc la religion et la magie. Peut-être pour être complet, Romain Bertrand mène également une réflexion historiographique qu'il a théorisée dans son livre L'histoire à parts égales, c'était au Seuil en 2011, et qui vise à sortir d'une approche trop européocentrée de sa discipline. Il fallait revenir là-dessus pour bien comprendre dans quel itinéraire intellectuel se situe Le détail du monde, sous-titré L'art perdu de la description de la nature, qui pousse un peu plus loin ce travail de réflexion pour interroger au fond la possibilité d'une histoire qui cette fois ne serait pas anthropocentré. Un exemple existe de cette tentative, il s'agit de l'histoire naturelle telle qu'elle s'est développée au XIXe siècle, quand savants et poètes combinaient savoir et littérature pour élever la peinture du paysage au rang de savoir supérieur. C'est au final, Sonia Faure, un livre qui nous invite à réviser nos modes de savoir, qui cherche à revaloriser la connaissance en surface, l'œil contre les idées, pour finalement considérer l'homme comme une chose parmi les choses.
Oui, exactement. Et dans la production de Romain Bertrand, que vous avez très bien décrite, on pourrait parler d'un livre de traverse, comme on parle d'un chemin de traverse. Il le dit lui-même, c'est le fruit d'une rêverie. Alors, ce n'est pas que le fruit d'une rêverie, bien évidemment.
Il y a un petit peu de travail.
Il y a quelques archives aussi. Et il obéit à la loi des assonances, c'est ce qu'il dit. Alors, en fait, on a l'impression, au départ, moi j'avais l'impression que c'était un livre qui tranchait vraiment avec la production qu'il fait d'habitude. Et en réalité, on comprend très vite, et vous l'avez déjà dit, qu'on est finalement pas si loin. Alors, c'est intéressant aussi de reprendre comment l'idée du livre lui est arrivée. C'est justement sur le terrain, à Bornéo, lors d'un travail de recherche pour un futur livre, qu'il se rend compte qu'il n'a pas les mots pour décrire la nature. Et il le dit, moi qui avais disserté sur tant de palais jusqu'en dans le détail de leur bossage, la verdure me laissait sans voix. Or, au moment même, justement, où il cherchait les mots pour décrire ces êtres naturels, ces plantes, sont en train de disparaître aussi. Ça fait 20 ans qu'il va dans ces parties du monde, et avec notamment la culture de l'huile de palme à Bornéo, qui implique de raser des milliers de kilomètres carrés de jungle. Il voit donc, au départ, assez confusément, que la perte des mots pour dire la nature est finalement aussi liée indirectement à la perte des choses elles-mêmes. Donc il se trouve que, comme il le raconte, dès qu'il va à Bornéo, lors de ses terrains, il a toujours dans sa poche un livre de Wallace. Alors Alfred Wallace, c'est un naturaliste du 19e siècle, un explorateur anglais qui a découvert en même temps que Darwin la théorie de l'évolution par la sélection naturelle, même s'il a été en grande partie oublié, au moins dans le grand public, qui décrivait et croquait ses découvertes dans ses carnets. Il faisait des descriptions d'insectes par milliers, d'animaux, etc. Et Romain Bertrand, en relisant ce livre, se rend compte qu'à l'époque, il y a des milliers de mots qui existent justement pour décrire la jungle, tel vers des feuilles, telle racine ou telle aile d'insecte. Et il va, comme il l'écrit, aller en quête de cette langue perdue. Alors pourquoi c'est important de retrouver les mots? Déjà parce que c'est magnifique comme recherche. Et puis tout simplement parce que justement le fait de que notre société ait perdu cette capacité de dire la nature, c'est aussi qu'elle a perdu en fait la capacité de l'observer, de lui donner du temps, de lui prêter de l'attention. Et on va voir dans toutes les au fil des pages que justement ce que ressentait Romain Bertrand au départ assez confusément, en fait ce désastre de la perte de la biodiversité dont on parle tant aujourd'hui, la sixième extinction, finalement est indirectement lié aussi avec cette perte des mots.
Oui, il y a une relation véritablement entre les deux, et c'est là qu'on voit que ce projet de Romain Bertrand, ce livre, Le Détail du Monde, publié à l'univers historique au Seuil, c'est à la fois une histoire de la pensée, une histoire culturelle, une histoire naturelle, et c'est bien plus que juste une rêverie, comme l'a dit tout à l'heure, qui était l'idée de base, comme l'a dit Sonia Faure à l'instant, c'est bien plus qu'une rêverie sur un manque, l'incapacité d'un historien à l'instant T de décrire la nature qu'il a devant lui, Catherine Portevin.
Ah oui, c'est ça qui est absolument remarquable dans ce livre. Je vous préviens, je vais être absolument dithyrambique du début à la fin, donc ça va faire un peu, ça va manquer un peu d'esprit critique, mais tant pis. Je trouve ce livre d'une beauté. D'abord, c'est très rare qu'on puisse dire d'un essai qu'il est beau. Il est très beau par sa langue. On va y revenir. C'est la moins qu'on puisse attendre d'un livre qui s'interroge sur la perte du lexique. Il y a la beauté du sujet aussi. Pourquoi la connaissance de la nature commence par l'émerveillement? Pourquoi la lecture des naturalistes du 19e siècle ou leurs planches dessinées procurent à nous aussi toujours une forme d'émerveillement, comme un souvenir enfoui, quelque chose qu'on ne connaît plus mais qu'on connaît un peu. Et il y a aussi une beauté de l'intelligence, c'est-à-dire la beauté de l'intelligence. Pour moi, c'est une thèse qui est d'abord une intuition, comme vient de le décrire Sonia, très bien, une intuition, une expérience, une inquiétude, et pas une idée qu'il s'agit d'argumenter ou de prouver à toute force. Pourquoi nous avons donc perdu cet art de la description de la nature. Et il a une démarche d'enquête qui n'a pas son résultat avant d'avoir commencé. C'est ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, il y a plusieurs lectures de ce livre possibles, et c'est ça qui est comme un millefeuille qui pourtant se lit, il faut se laisser prendre par le récit, il faut pas chercher midi à 14h, enfin il faut juste lire ce qu'il écrit.
Oui, il y a un récit qui fonctionne un peu comme une galerie de portraits.
Il y a une galerie de portraits, mais en même temps ça fonctionne par boucle. Disons qu'il y a trois grands personnages qui sont les personnages pivots. On va y revenir peut-être après dans le détail. Alfred Russel Wallace dont vient de parler Sonia. Il y a un certain Louis Tiner qui est un peintre naturaliste qui a entre autres accompagner les grandes explorations de l'océan de Albert Ier de Monaco et qui cherchait le bleu du ciel. Donc là, on est vraiment aussi dans la perte de s'il y a une perte du lexique, il y a aussi une perte des couleurs, enfin du nuancier. Et puis, il y a ce dernier personnage qui est peut-être le plus haut en couleur, le plus étonnant, qui est Tom Harrison, qui était un ornithologue passionné, amateur, et qui a fini par être une espèce de créateur de la sociologie, parce qu'il a appliqué à l'étude des hommes les règles de l'observation des oiseaux. On va certainement redéveloppé sur ce personnage. Et à partir de ces personnages-là, ça fonctionne un peu en boucle, en assonance, comme l'expliquait Sonia, c'est-à-dire que c'est par association d'idées, d'itinéraires, que le fil se tisse. Au centre, quand même, de son itinéraire, il y a quand même l'époque, parce que c'est quand même un historien, et en particulier Darwin, qui n'est pas un des personnages...
Qui est en creux pendant tout le temps,
qui est vraiment très proche, qui sera très proche de Wallace. Wallace a eu l'élégance de lui laisser la primeur de la théorie de l'évolution et de l'origine des espèces, parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est que Romain Bertrand a choisi des personnages qui sont un peu les personnages secondaires de l'histoire, qui sont restés dans l'ombre, qui sont tous autodidactes. En général d'une extraction sociale plutôt basse et qui ont arpenté le monde et qui ont eu une vie, des vies un peu d'aventuriers.
Des vies d'aventuriers, c'est sûr qu'à cette époque-là, donc du 19e siècle, qui est ce moment de grand succès de l'histoire naturelle, c'est le règne des amateurs. Donc cette galerie de portraits, Wallace, Harrison, Louis Tiner, Sonia Faure. Ce règne des amateurs, c'est aussi un projet presque pour Romain Bertrand, un projet historique.
Oui, tout à fait. Il rend hommage justement à toute cette tradition des sciences naturelles qui attachait une grande importance, donc on l'a dit, à la surface des choses, aux détails, aux teintes et aux couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait toute une différence justement entre cette description de la surface et le, comme il appelle ça, le parti de l'entaille qui va progressivement s'imposer au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe. En fait, au contraire, le parti de l'entaille, c'est la certitude qu'il faut absolument voir à l'intérieur, disséquer les êtres et les choses pour mieux les connaître. Au contraire de ce qui avait plutôt prévalu jusqu'à présent, de rester à la surface, même s'il explique bien, chez tous ces naturalistes dont on a parlé, qui sont tous des passionnés de la nature, qui sont tous émerveillés par la nature, n'en reste pas moins que ce sont tous aussi, pour la plupart, des chasseurs, qu'ils tuent par centaines des papillons pour les épingler, ou voire des grands singes pour mesurer leur tibia et essayer de vérifier des lois naturelles. Donc le parti de l'entaille a toujours coexisté avec le souci de décrire la surface. Mais progressivement, ce qui est intéressant, et c'est toute la thèse de Romain Bertrand, c'est que justement cette volonté d'entailler, d'ouvrir, de disséquer, va l'emporter, et en plus encore au XXe siècle en réalité. Et avec lui, c'est la loi des ensembles qui va l'emporter sur l'observation du singulier, du cas par cas. Quand Wallace décrivait un scarabée, il décrivait ce scarabée. Après, on fait des grandes séries. Et que donne justement cette pensée en termes de population, de cheptel, comme le rappelle Bertrand, c'est qu'au fur et à mesure, c'est aussi ce qui va amener à l'industrialisation de l'abattage, voire aux grandes thèses racialistes, y compris pour les êtres humains, qui vont vouloir hiérarchiser entre les supposées races et tout ce qui va s'en suivre. Or, justement, ce qui est passionnant dans le bouquin de Romain Bertrand, et ça, c'est l'historien qui parle, donc sans doute, justement, des chercheurs, des biologistes lui porteraient la contradiction, mais c'est que selon lui, déjà rien que par la description de la surface, on peut aller très loin. On n'est pas forcément obligé d'entailler et de disséquer. Et le meilleur exemple, c'est sans doute Wallace, donc qui découvre la loi de la sélection naturelle par l'observation plus que par la vivisection et l'expérimentation. Et l'histoire est sans doute connue par tous ceux qui s'y intéressent, c'est qu'un beau jour à Londres, Darwin, qui finalise sa théorie de l'évolution, apprend qu'à l'autre bout du monde, dans la jungle, il y a un autre chercheur, Wallace, qui est sur le point d'aboutir aux mêmes conclusions. Donc finalement, ils vont faire un gentleman agreement, ils vont présenter ensemble leurs conclusions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Robin Bertrand pose la question, comment Wallace, lui, au fond de la jungle, loin de ses bibliothèques, loin de tout du réseau scientifique de Londres, comment il va trouver, lui aussi, ce qu'il appelle la loi des évolutions adaptatives? Ben en fait, ça tient à une carapace de scarabée. C'est-à-dire que Wallace capture un scarabée tigre à Macassar, où il voit qu'il est marron, ce scarabée, parce qu'il évolue dans la boue. Et puis, comme c'est un collectionneur dingue, il a une mémoire incroyable comme tous les collectionneurs. Et il se dit, mais il y a quelques années, à Lombok, plusieurs centaines de kilomètres de là, j'ai vu le même scarabée, mais il était noir. Ah bah oui, bah il évoluait sur du basalte. Et c'est comme ça, par l'observation, qu'il va effectivement commencer à voir, à pressentir que les êtres vivants s'adaptent à leur environnement.
Mais Darwin avait fait la même chose, en fait. Donc c'est pour ça que ça lui a fait tilt, parce que l'histoire est célèbre de ces observations des pinsons au Galapagos qui, d'une île à l'autre, ne sont pas les mêmes. Enfin, et donc ont évolué d'une façon différente.
Oui, et ça sous-tend tout le livre de Romain Bertrand et toute sa thèse, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est la thèse de l'œil contre la pensée,
oui,
en quelque sorte.
C'est comment, c'est
l'intelligence de l'œil. Il y a eu un livre un fameux livre de Richard Sinat sur l'intelligence de la main. Là, c'est l'intelligence de l'œil. Et c'est vrai que c'est fascinant, ces réflexions de Romain Bertrand sur la naturalisation. Là, pourquoi est-ce qu'on parle de naturalisation quand on parle de taxidermie? Pourquoi est-ce que on s'intéresse plus à la forêt qu'à l'arbre, pour reprendre une expression célèbre, Catherine Portevin?
Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que il y a une lecture écologique qui est évidente, qui vient du sujet que Sonia a beaucoup déjà énoncé. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que d'après tout, je suis philo magazine, donc c'est une lecture philosophique, parce qu'il y a une vraie théorie de la connaissance dans ce livre que je trouve absolument fascinante. D'abord, est-ce que, par exemple, les choses n'existent que parce que je peux les nommer? Il y a tout c'est un grand classique de la philosophie, de savoir si on peut connaître les choses si on ne les nomme pas. Et Goethe, le premier, se retrouve devant la nature en avouant qu'il ne peut pas décrire le paysage du Saint-Gothard en disant je n'avais point de langage pour de pareils objets. Et il y a à la base de
de cet appétit naturaliste, la volonté de, comme disait Rousseau aussi, de décrire jusque le moindre brin d'herbe, le moindre lichen, jusqu'au bout. Et c'est aussi la folle idée, donc, de faire une sorte d'inventaire du monde par ces êtres. Et sur la question de la connaissance, qu'est-ce que c'est savoir? Qu'est-ce que c'est connaître? Qu'est-ce que c'est connaître la nature? C'est forcément rentrer dans le singulier. C'est forcément connaître le nom de chaque être. De ce point de vue-là, c'est un livre très démocratique qui traite tous les êtres à égalité et qui donne une possibilité d'une lecture pluraliste. Parce qu'effectivement, il y a pas non plus de héros. Les personnages Wallace en particulier ou Tom Harrison encore plus sont toujours sur la crête. Ce ne sont pas des purs amoureux de la nature par rapport à des viandards. Ils sont des viandards aussi. C'est ça qui est intéressant.
Ah oui, la description du prince Albert Ier de Monaco,
oui, ça, c'est quelque chose.
Et son tableau de chasse est absolument hallucinante.
Et ça revient très fréquemment. Romain Bertrand dit « La pensée a toujours les mains sales. L'amour de la nature, l'amour qu'on porte à la nature est toujours un amour apache. Donc, ça de cela, peut-être, on est sorti. Mais moi, je trouve qu'il y a une validité très grande pour la pensée aussi. Et c'est qu'est-ce que c'est que faire attention aux êtres? Qu'est-ce que c'est que faire attention à la singularité de chaque chose? C'est pour ça qu'il fait des rapprochements avec la littérature aussi. Et donc il y a aussi un autre héros souterrain qui est Francis Ponge et le poète Francis Ponge et son parti pris des choses. Et d'une certaine manière, peut-être que si le titre n'avait pas été pris, le livre de Romain Bertrand aurait pu s'appeler comme ça. En tout cas, cette volonté d'aller jusqu'au bout de la description. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire, effectivement. Alors, après, on va pouvoir développer, mais...
Oui, plus beaucoup, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Beaucoup. Mais juste quand même, c'est vrai que Romain Bertrand revient, nous explique que cette tentative un peu folle de l'histoire naturelle, qui est une tentative de description exhaustive du monde et de la nature, en s'intéressant aux plus particuliers, aux plus petits, bien plus qu'à une description générale. Et c'est en ça, nous dit-il, qu'il y a un affrontement philosophique, un affrontement même politique, dans cette Angleterre notamment, puisque c'est ça le lieu important du 19e siècle pour ces questions-là. Il nous rappelle cette théologie naturelle qui est un anthropocentrisme radical. Voilà, l'homme doit rester au centre de la nature, au centre des choses, auquel s'oppose évidemment cette histoire naturelle dont Wallace, Humboldt, Tinner, tous ces gens qu'on a, Harrison, tous ces gens qu'on vient de citer sont des représentants. Cette histoire naturelle qui nous dit donc l'homme n'est qu'une chose parmi les choses.
Exactement. Sonia, c'est vraiment un des points aussi extrêmement actuels évidemment sur l'anthropocentrisme et puis finalement cet antispécisme même dont on parle beaucoup aujourd'hui. Effectivement, on voit qu'à l'époque déjà dès le 18e siècle, il y avait déjà des résistances à l'anthropocentrisme qui était très clair. Il y a un autre personnage très important, c'est Alexander von Humboldt, évidemment, qui est un grand explorateur, grand scientifique, et qui lui avait une ambition d'une science naturelle totale, effectivement, et qui décrivait les Indiens de l'Orénoque comme les roches, comme les oiseaux. Et c'était pas du tout dans une perspective raciste de dire les Indiens ne sont que des objets parmi d'autres. Au contraire, c'était que finalement, il mettait les hommes, les minéraux, les animaux, les végétaux sur le même ton, comme dit Romain Bertrand, il en parlait dans les mêmes termes. Et alors, il y a ce personnage incroyable, je suis d'accord avec Catherine, de Tom Harrison, effectivement.
Alors, dites-nous-en un peu plus sur Tom Harrison.
Voilà. Alors, lui, il est alors, j'ai pas cette date exacte, mais enfin, c'est début du 20e siècle.
1976.
Voilà. Merci, Catherine. Alors, c'est au départ, il est passionné d'ornithologie. D'ailleurs, il se fait connaître dans ce milieu-là parce qu'il découvre effectivement beaucoup de choses. Et il a une manière extrêmement rigoureuse de noter tout sur son carnet. À quelle heure sort tel oiseau? Ils sont combien dans leur bande d'oiseaux, ils sont à combien de mètres de leur nid, etc. Et en 1937, ils fondent le Mass Observation Project avec des amis, où finalement, il va effectivement utiliser ces méthodes d'ornitho aux Anglais des faubourgs, aux classes populaires britanniques. Et de la même manière, il va vouloir s'intéresser à tout sans hiérarchie. Il dit aussi bien à la culture des plantes d'intérieur qu'à l'antisémitisme, aux cris et gesticulations des automobilistes, comme à la diffusion des plaisanteries graveleuses. Et de la même manière, il va demander à ses étudiants d'être plutôt dans une... C'est pour ça qu'on dit, Romain Bertrand émet l'hypothèse que c'est un peu le père de la sociologie d'immersion, où ses étudiants, en fait, sont assez discrets, notent exactement tout, quelles sont la couleur des souliers des personnes qu'ils voient, quels sont leurs gestes, leurs attitudes. Et donc, il y a cette volonté, finalement, d'appliquer des méthodes d'observation de la nature aux êtres humains. Et cette idée que Romain Bertrand a eue, qu'effectivement Harrison l'a fait vraiment en lien avec la manière dont il regardait les oiseaux, c'est parce que dans les années 60, à la fin de sa vie, Harrison répond à une interview de la BBC qui lui dit, bon, aujourd'hui, maintenant, on est dans les années 60, 30 ans après vos premiers projets, on connaît les statistiques, on sait que ça manquait un peu de rigueur, vous posiez jamais de questions aux gens dont vous parliez. Et Harrison répond, mais est-ce qu'on pose des questions aux oiseaux ?
Tom Harrison aimait modérément ses semblables, mais éperdument les oiseaux. C'est comme ça que commence le chapitre 3 qui lui est consacré. Catherine Portevin, un mot sur ce personnage avant...
Ah oui, ouais, je trouve que ce personnage est très étonnant parce que, à mon avis, il devait être absolument infréquentable. Mais il invente quand même cette sociologie de terrain qui au moment où, aux États-Unis, Gallup,
c'est-à-dire
l'Institut de sondage, lance les premiers sondages... C'est-à-dire un peu avant la guerre. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et alors là, pour montrer tout le travail de Romain Bertrand, lui aussi, Harrison est constamment sur la crête. Il est aussi un agent colonial. Il va finir comme agent colonial à Sarawak, à Bornéo, où à la fois il va aussi s'inspirer de l'ethnologie, de l'ethnographie coloniale qu'il va pratiquer et devenir le directeur du musée de Sarawak durant 20 ans et il mourra dans un accident de voiture bêtement dans les années 70. Donc ça, je trouve que c'est un itinéraire très intéressant et justement à la fin de sa vie, on le traite comme un amateur. Il a énormément publié, il a énormément fait d'observations dans tous les sens. Le musée de Sarawak il a fait venir plein de spécimens. Et dans les années 50, à peu près au moment où il est dans ce musée, il peut envoyer toute la littérature scientifique qu'il veut. Et il est trop généraliste, justement, trop dans le détail du monde et pas assez dans la science. C'est ce que le Romain Bertrand appelle le divorce de l'art et de la science.
Juste un tout petit mot, enfin quelques petits mots justement pour finir. Je voulais justement donner quelques mots qu'on croise dans le livre parce que c'est quand même important.
Oui, il faut le lire avec un dictionnaire, oui.
Ah, ben justement, élytre, ocelle, tarse, la cire, mélancolie. Et justement, vous parlez de dictionnaire, Romain Bertrand raconte que son éditrice au Seuil lui a dit, bon, je pense qu'il faut quand même faire un glossaire parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués. Il dit, surtout pas de glossaire. Je veux que justement le lecteur ressente ce manque de mots qu'on a devant la nature. Et je pense que c'est une expérience qu'on fait réellement.
C'est comme la liste des êtres vivants que fait le professeur Aronnax au fond de son bâtiscaf dans 20 milieux sous la mer de Jules Verne. Il y a trois pages d'énumération de noms et là, on est dans la pure poésie.
Moi, j'ai quand même pas pu m'empêcher d'aller regarder dans mon dictionnaire à la lecture de ce Romain Bertrand.
C'est sérieux.
C'est vrai. Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, c'est aux éditions du Seuil.
France Culture. Avis critique.
Raphaël Bourgois.
deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous intéresser maintenant au livre de Ludivine Bantini, L'œuvre du temps, publié aux éditions de la Sorbonne dans la collection Itinéraire, dirigée par l'historien Patrick Boucheron. Une collection qui propose à des chercheurs de revenir sur leur parcours personnel et de mener une réflexion sur leur pratique du métier. Ludivine Bantini est maîtresse de conférences à l'université de Rouen-Normandie et chercheuse associée au Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Ses travaux portent sur la jeunesse et les générations, l'engagement politique, la conscience historique, la guerre d'Algérie et mai 68. On avait parlé ici à ce micro au moment des commémorations du cinquantenaire de son ouvrage 1968, De grand soir en petit matin, qui était paru au Seuil. C'est aussi une historienne engagée à gauche qui participe au débat public et qu'on peut voir dans certains médias. Elle en parle dans le livre qui nous intéresse ce soir, car au fond, la question qui y est posée, c'est quelle est la fonction et la finalité du métier d'historien. Ludivine Bantini interroge le rapport à l'archive, aux faits, aux vrais, puis comment on porte tout cela dans l'espace public, avec quelles responsabilités, quels engagements. Pour y répondre, elle fait le récit de sa propre histoire, celle d'une jeune provinciale d'origine modeste du nord de la France, peu à l'aise dans le milieu intellectuel parisien, mais qui trouve dans ce malaise une raison de plus pour s'y exprimer. C'est aussi une lectrice qui laisse une place importante aux affects, aux émotions dans sa pratique et donc à la littérature. Une historienne, en somme, qui s'interroge aussi bien sur ce qu'elle peut dire du temps, le temps qui passe, le temps linéaire du progrès, que sur la fonction de l'événement. Catherine Portevin, il y a presque une dimension philosophique. Difficile de faire un livre sur le temps et l'histoire sans citer Walter Benjamin. Ludivine Bantini n'y coupe pas.
Oui, et d'ailleurs, il y aurait un livre à faire sur la récurrence de cette référence à Walter Benjamin, parce qu'en plus, pour qui a lu vraiment les réflexions sur l'histoire de Walter Benjamin ou sa critique de la violence, c'est quand même très très difficile à lire. Personne n'y a jamais rien compris, donc je pense qu'il y a quelque chose d'une espèce de complaisance, peut-être. Je ne dis pas que c'est le cas de Ludivine Bantini.
C'est un aveu vous honore, Catherine Portevin.
On peut difficilement lire un essai sans tomber sur
surtout les historiens. Alors, il y a une charge. Alors moi, il y a des choses sur dans Walter Benjamin, sur ses promenades dans les passages parisiens qui sont extraordinaires. Enfin, je ne dis pas que c'est pas du tout un auteur à lire, mais sa réflexion sur l'histoire, elle est quand même teintée d'une forme de messianisme qui est très difficile à percevoir quand on n'est pas dans cette grande pensée juive qu'il a portée. Alors c'est très mystérieux, et souvent ceux qui s'en réclament ont quand même aussi quelque chose de messianique. C'est ce que peut avoir Ludivine Bantini. Moi j'ai trouvé que ce livre était d'abord extrêmement joyeux, extrêmement vif, extrêmement libre. Pour une collection qui, bon, certes, on demande aux auteurs de parler de leur itinéraire, mais enfin, c'est tout de même les éditions de la Sorbonne, on est quand même entre pairs. Et je l'ai trouvée assez bravache et même un peu gonflée, parce que finalement, elle aboutit quand même à une forme de déclaration assez radicale sur la question de l'engagement, qu'on va certainement détailler parce que c'est la part la plus centrale de sa réflexion, où elle finit par dire « j'ai plus le temps de grillager les champs, d'un côté la recherche, et de l'autre côté l'engagement. Je veux travailler à rouvrir les possibles, je veux travailler sur les expériences politiques alternatives, je veux m'engager dans le monde et faire que ce monde soit plus vivable. » On peut discuter de savoir si, à ce moment-là, voilà, qu'est-ce que c'est, elle a tout à fait le droit de ses engagements, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire dans ce cas. Je précise quand même que pour faire le lien avec Romain Bertrand, c'est qu'ils sont exactement du même âge, ils sont donc vraiment des contemporains. D'ailleurs, c'est un thème très important aussi pour Ludivine Bantini.
Peut-on être contemporain ou peut-on ne pas être contemporain,
voilà,
de son propre temps?
Et elle dit aussi, en essayant toute sa réflexion sur la critique de la génération, du terme de génération, d'utilisation de la génération, très intéressant de ce point de vue-là. Et donc ils sont contemporains à plus d'un titre, Romain Bertrand et Ludivine Bantini, pourtant avec des livres qui ne se ressemblent pas. Mais je crois qu'il y a une génération d'historiens, le terme génération, des contemporains, des historiens contemporains, qui en fait revendiquent surtout de n'avoir pas choisi l'histoire par hasard. Alors ça suffit pas à faire vraiment école, et d'ailleurs là il y a une grande diversité, mais je crois qu'il y a quelque chose de la recherche, non plus comme un plaisir d'élite, ou comme le savoir pour le savoir, mais comme avec l'envie d'être utile. Elle recite Lucien Febvre qui ouvrait ainsi le champ de l'histoire des mentalités en disant « savoir comment ça s'est passé, c'est le rôle de l'histoire, certes, mais pourquoi faire ?» Et c'est ce « pourquoi faire » C'est ce que faire de Lucien Febvre que Ludivine Pantigny explore et auquel elle essaye de répondre.
Elle cite en effet l'historien français Lucien Febvre, l'un des pères de l'école des annales, mais elle cite aussi une autre figure tutélaire de l'histoire qui est Howard Zinn, qui est cet historien américain justement qui fait aussi ce lien entre la recherche et l'engagement. C'est à quel moment la façon de lire l'histoire, les faits, c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette réflexion sur la rigidité ou non par rapport aux faits, à la vérité, comment cette le choix même de ce dont on parle est déjà une prise de position, on a déjà choisi son camp, et comment ça dit quelque chose de la lecture, du regard sur l'histoire, qui est aussi une lecture nécessairement politique, selon Ludivine Bantini. Ça pose évidemment toute la question de savoir si l'histoire est une science.
Oui, Howard Zinn, effectivement, qui ouvre et qui clôture le livre, hein, et donc il s'était engagé, historien américain, donc il avait fait une histoire populaire, et qui s'était engagé contre la guerre au Vietnam. C'était aussi toute la réflexion sur l'engagement, et qui voulait préparer ses étudiants, je cite, à rejeter la sécurité que confère le silence. Donc vraiment la prise de parole, l'engagement. Et si Ludivine Bantini effectivement parle énormément de l'engagement, c'est un engagement à plusieurs titres. C'est l'engagement évidemment politique, car Ludivine Bantini est une chercheuse solide, hein, qui dépouille des archives très rigoureusement. Mais c'est aussi une personne très à l'écoute des mouvements sociaux contemporains. Elle a notamment fait des textes ou signé des pétitions pour les femmes de ménage de l'hôtel Hayat, par exemple. On pouvait la croiser, il me semble, sur la place de la République lors du mouvement Nuit Debout. Donc il y a ces interventions-là. Il y a des interventions dans le débat public plus général sur l'histoire, et puis il y a tout le rôle de toute l'importance des émotions, et on en reparlera sans doute beaucoup aussi, de ce qu'on met soi dans sa recherche. Et là, elle se place derrière aussi des Arlette Farge ou ce genre de... mais juste, je voulais revenir sur son...
Parce que, ou tout simplement, dans la lignée de la revue Sensibilité, je la cite parce que oui. C'est une très belle revue publiée par les éditions Anamosa, dont Romain Bertrand est au comité de rédaction. Pardon.
Voilà, ouais, Sonia Ludivine Bantini. Donc, Ludivine Bantini a choisi d'organiser toute sa réflexion sur le temps. Donc, alors, il y a des dissertations sur le fait que le temps a une histoire et qu'on oublie bien souvent, qu'il ne faudrait pas le voir comme une progression linéaire, continue et homogène, mais plutôt comme une matière où finalement il y a une coïncidence des temps, le présent, le futur, le passé sont tous toujours actifs au présent. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint, on parle de génération et de contemporain, ça rejoint une question qui agite beaucoup en ce moment les historiens et pas que d'ailleurs. Est-ce qu'on peut comparer le présent et le passé et le présent? Comment on peut tirer des leçons? Est-ce qu'il faut le faire du passé pour le présent? Et est-ce que finalement ce qu'on ressort souvent aux historiens engagés justement, en tout cas engagés dans le débat public, c'est comparaison n'est pas raison. Et comment on peut résoudre cette question-là? Et je pense qu'il y a, c'est une question évidemment qui est pas nouvelle, hein, mais elle ressurgit aujourd'hui, à mon avis, avec deux événements. La montée de ce qu'on appelle les populismes, hein, et le fameux retour aux années 30, est-ce qu'on est dans les années 30 ou pas? Et là, il n'y a pas que les historiens qui y réfléchissent. Je pense évidemment au livre du philosophe Michael Fossel.
Dont il sera question ici d'ici une quinzaine de jours.
Voilà, Récidive, où justement, alors je ne fais pas de spoiler, mais enfin, dans son introduction, il réfléchit aussi sur la différence des temps, et il estime que le caractère incomparable du présent au passé commence à vaciller. Et puis il y a aussi, je pense, le mouvement des Gilets jaunes qui est quand même arrivé en 2018. Effectivement, vous le rappelez, on était en train de, enfin, beaucoup d'historiens avaient sorti des livres sur 68 et il y a un écho comme ça. Et il y a beaucoup de gens comme Ludivine Bantini, qui est donc spécialiste de 68, qui se demandent aussi dans l'insurrection qu'est-ce qu'on peut retirer des autres insurrections. Les Gilets jaunes, enfin beaucoup de Gilets jaunes s'en réfèrent à 68, s'en réfèrent à la Révolution française. Et juste pour finir, je me permets de citer Sophie Vaniche, qui dans sa chronique à Libération jeudi dernier, était justement dans cette question de l'analogie historique. Comment on peut justement, comment l'historien peut intervenir dans le débat public avec ce passé. Sophie Vaniche expliquait, donc spécialiste de la Révolution française, hein, expliquait que les historiens vivaient dans un grand désordre des temps et que finalement la sage diachronie et la séparation stricte entre présent et passé ne tenaient plus, même pour eux.
Quand les réflexions historiographiques rejoignent des réflexions politiques, Catherine Portevin, ça donne dans le livre de Ludivine Bantini, L'œuvre du temps, donc aux presses de la Sorbonne, aux éditions pardon de la Sorbonne, ça donne cette réflexion sur le temps linéaire qui serait un temps néolibéral, capitaliste, puisque cette idée de progrès était instrumentalisée dans ce sens-là selon Ludivine Bantini, auquel elle oppose un temps qui se superpose. On avait parlé ici du livre de Jérôme Bachet, Défaire la tyrannie du présent. C'est voilà Jérôme Bachet qui est proche des mouvements zapatistes en Amérique du Sud, et donc il y a dans cette mouvance de gauche, d'extrême gauche même pourrait-on dire, cette idée qu'il faut repenser aussi notre approche du temps. Catherine Portevin.
Oui, alors, est-ce que c'est forcément seulement la mouvance d'extrême gauche? Je ne crois pas. Je crois que la réflexion sur le temps non linéaire est vraiment au cœur de la profession d'historien. Et je crois que toute cette question de la remise en cause du roman national, de la chronologie, comme étant celle de la vérité des faits, et aussi toute l'histoire de l'histoire des annales, qui montre la superposition du temps long, des trois temps de l'histoire, le temps long, le présent et l'immédiat. Tout ça a toujours travaillé l'histoire comme discipline, enfin comme pratique historienne. Quoi. Son chapitre là-dessus est vraiment très très intéressant et très intéressant à lire et très accessible à tout le monde. Elle résume très très bien la problématique du temps linéaire versus le temps plutôt une sorte de palimpseste. C'est comme un feuilletage. Et d'ailleurs, elle l'exprime très bien par ces petits chapitres qui sont en italique dans le texte, qui sont des petits focus où plutôt autobiographique. Quelquefois, elle met dans l'autobiographie des choses qui ne sont plus du tout de l'autobiographie, qui sont plutôt du commentaire d'actualité. Donc, j'arrive pas forcément toujours à tout suivre. Mais c'est là où elle raconte la figure de son grand-père, des choses très très sensiblement. Comment elle est arrivée, ça m'a beaucoup touchée. Comment elle est arrivée en Cagne, venant de sa province, et que elle est allée voir le service social ou le service psychologique qui lui a dit c'est normal que vous soyez un peu débordé, vous n'êtes pas du bon milieu. C'est une réponse hallucinante. Et comment elle s'en est sortie? Et ça, je pense que en lisant Bourdieu et en comprenant ce qui se passe, la question de la distinction, et il faudrait un jour faire un petit essai sur comment Bourdieu a sauvé la vie de pas mal de cagneux.
Il va falloir devenir éditrice, Catherine Portevin. C'est le deuxième essai que vous commandez.
Voilà.
C'était Walter Benjamin et l'histoire, le premier.
Oui.
Sonia Faure.
Oui, elle réfléchit justement à comment le passé habite encore le présent. Elle va même assez loin parce qu'elle fait quand même toute une comparaison entre l'histoire et la psychanalyse, qui est d'ailleurs, qu'elle-même n'ose pas aller trop loin, puis elle tâtonne. En même temps, c'est intéressant parce qu'on voit, en lisant, on voit ces tâtonnements. Voilà. Et donc, elle essaie dans aller trop loin, elle essaie de montrer qu'il y a des pistes quand même à trouver dans cette comparaison-là. Elle parle notamment de la notion de Freud. Alors, excusez mon allemand, la Nachträchtlichkeit. Donc l'après-coup,
l'intelligence de l'après-coup.
Voilà, l'intelligence de l'après-coup. Comment le passé justement peut resurgir après-coup et habiter encore psychiquement l'après-coup. Et donc elle explique que l'histoire comme la psychanalyse sont à la recherche du temps perdu. Donc il y a je pense que tous les historiens seraient pas forcément en accord avec ce qu'elle dit, mais il y a toute une réflexion assez intéressante sur cette
question. Oui, surtout par ailleurs, elle critique aussi beaucoup les interventions publiques des psychanalystes, et notamment Toni Antanarella, qui a développé au moment de 68 toute une sorte de toute cette phraséologie autour de la mort du père, la révolte contre le père, enfin bon, toutes ces choses-là qui reviennent régulièrement aujourd'hui. Et donc et pourquoi les psychanalystes dans leur prise de parole publique sont souvent plutôt conservateurs, enfin, et on l'a encore vu au moment des polémiques autour du mariage pour tous. Ça c'est intéressant. Par contre, ce qui est très très étonnant sur la question de la psychanalyse, qui me semble pas si absente que ça dans les réflexions des historiens, c'est que jamais elle ne parle de mémoire. Alors que précisément le rapprochement avec la psychanalyse, qui a été aussi inauguré, réfléchi par Ricoeur par exemple, s'articulait sur justement cette réflexion mémoire, histoire, oubli, enfin c'était le grand livre de Ricoeur. Elle ne parle pas de mémoire, mais ça, je trouve ça assez intéressant qu'elle n'en parle pas d'une certaine manière. Peut-être que c'est un oubli, mais c'est surtout parce qu'il me semble, mais c'est pas ce qu'elle dit vraiment, mais que aujourd'hui cette partition entre l'histoire et la mémoire mériterait d'être, voilà encore un autre livre à écrire, mériterait d'être retravaillé, parce que je suis pas sûre que ça continue d'opérer, c'est-à-dire peut-être que les rapprochements entre l'histoire et la mémoire se font, et qu'il faut en prendre acte. Même comme historien, il faut prendre acte du fait que la mémoire devient histoire, enfin, et qu'elle fonctionne, que c'est la manière de l'histoire de fonctionner. Voilà, enfin, je pense qu'il y a des pistes là, voilà, oui, qu'elle ouvre.
Ça va plus loin. La mémoire est grosse de l'histoire, en quelque sorte, on pourrait dire, selon Ludivine Bantini, puisqu'on était dans le chapitre sur la psychanalyse, elle cite J.B. Pontalis. Le temps ne passe pas, oui. disait J.B. Pantalis, et c'est quelque chose d'assez intéressant. On retrouve aussi cette idée dans l'approche qu'elle a des fantômes, des spectres. Voilà, c'est très benjaminien, encore une fois, cette relation au temps superposée, et aussi à ces projets frustrés, des laissés pour compte de l'histoire, qui restent vivants dans leur échec en tant que possibilité. Et c'est ça qu'elle va chercher Ludivine Bantini dans cette entre-deux, entre l'histoire et l'engagement politique, c'est de dire, voilà, tous ces projets frustrés, ces révolutions avortées, ou en tout cas qui n'ont pas forcément donné ce qu'elle promettait, elles sont toujours présentes.
C'est la fameuse question des futurs non advenus qui est aussi irrigue beaucoup cette génération d'historiens. On pense évidemment à l'histoire des possibles, le livre qui a été écrit par Saint-Garavello et Deluhermos, d'autres historiens qui sont à peu près de la même génération.
Et qui sont aussi à la revue Sensibilité, comme quoi c'est vraiment un vivier.
Et Saint-Garavello qui dirige maintenant les éditions de la Sorbonne.
Saint-Garavello,
enfin, tout est lié et tout se tient.
Et c'est une histoire de famille. Ils ont tous un air de famille, voilà.
Effectivement, c'est tous ces futurs non advenus, c'est-à-dire Ludivine Bantini, quand elle écrit son 68, elle parle beaucoup de ça aussi. C'est qu'elle dit que 68, c'est aussi une reprise de parole avec les discussions de 36 du Front Populaire, qui n'ont pas forcément toutes abouti, évidemment. Elle rappelle qu'en 68, il y a quand même les slogans sur la commune sont extrêmement présents. Donc il y a effectivement tous ces futurs qui ne sont pas arrivés, qui n'ont pas réalisés, donnent aussi l'élan. C'est ce que dit Enzo Traverso aussi, hein, dans ses livres. Ça donne l'élan pour le présent, peut-être plus que finalement, autant au moins que les utopies du présent, quoi. C'est vraiment des reprises de discussion avec ces futurs qui ne sont pas arrivés.
Catherine Portevin.
Oui, ça c'est la partie justement qui manifestement la stimule et la pousse en avant dans je pense qu'elle va sûrement travailler désormais comme historienne sur toutes ces expériences alternatives de reconstruire des utopies et pourquoi pas ça peut être un objet d'histoire
même si vous le disiez en commençant cette conversation, c'est vrai que plus on voit cette évolution de Ludivine Bantini, qui peut être rapprochée d'autres évolutions, pas forcément des historiens des historiennes qu'on a citées jusqu'à présent, ça interroge malgré tout sur l'histoire comme science sociale, comme oui. science à proprement parler.
Alors moi, je partage tout à fait. Ça, c'est plutôt un motif pour nous qui sommes des observateurs de la vie des idées, plutôt de joie de voir cette ébullition qui peut y avoir du côté des historiens, et pas seulement, enfin des sciences sociales aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même une vivacité, et surtout avec cette préoccupation de rendre la recherche publique. Donc ça, je partage beaucoup cette ambition, et c'est très très bien. Évidemment, elle reprend un peu rapidement, me semble-t-il, pour le coup, cette grande opposition classique dans le rôle de l'intellectuel, entre Sartre, l'intellectuel global, et Foucault, l'intellectuel spécifique. Elle est d'ailleurs assez injuste avec Foucault, je trouve, parce que elle caricature un peu le point de vue de Foucault. Ce qui les oppose à ses yeux le plus, c'est que Foucault, ce qui n'est pas une découverte, n'avait pas comme souci premier la question de la lutte des classes, ce qui n'était évidemment pas le souci pour le coup de Sartre. Du coup, elle est un peu, je trouve, c'est un peu court pour défendre une position d'engagement radical, et pourquoi pas. Je trouve ça assez courageux de sa part de dire voilà, maintenant j'y vais, il me reste plus beaucoup de temps, alors qu'elle a que 45 ans, il faut quand même qu'elle s'accroche, mais
il lui reste un peu de chemin. Oui.
Il lui reste encore un peu de chemin, mais j'ai plus beaucoup de temps, il faut travailler à rendre le monde meilleur, donc allons-y. Bon, elle oublie aussi. Je pense que là, elle oublie que d'abord, dans la réflexion de Foucault sur la nature des pouvoirs aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de la question de la compréhension du monde où on est et comment du coup agir, qui est quand même extrêmement précieuse. Et l'intellectuel spécifique avait quand même pour le chercheur, c'est quand même important de parler à partir quand même d'une si ce n'est une expertise, du moins un savoir. Et quant à la figure de Sartre, quel que soit l'intérêt que il a représenté historiquement, justement, il me semble que là, C'est très difficile d'être un intellectuel généraliste comme elle est engagée, comme elle l'imagine à la Sartre aujourd'hui, parce que sinon c'est juste aller faire les plateaux de télé et certainement pas faire de la recherche.
D'autant qu'il y a un vrai débat.
D'ailleurs, Sartre n'était pas chercheur.
Il y a un vrai débat sur ce sujet. Catherine Portevin, on terminera là-dessus. Sonia Faure, je pense à un texte récent de Christophe Prochasson, qui est historien, qui est directeur ou le président plutôt de l'HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et qui rappelait ce que disait un ami de Lucien Herr, le fameux bibliothécaire de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm au début du XXe siècle, le nom de ce chercheur m'échappe, qui lui disait « Avant de m'engager, je cherche d'abord à être un bon technicien. » Et les chercheurs doivent être, avant de s'engager, des bons techniciens de leur matière.
Ce qu'est Ludivine Bantini,
mais malgré tout, c'est vrai que ce glissement, il peut interroger sur la capacité à continuer à être de bons chercheurs, de bons historiens, Sonia Faure.
Oui, mais alors effectivement, Ludivine Bantini est aussi une technicienne. Je le disais effectivement pour son livre sur 68, elle a épluché énormément d'archives départementales, locales, elle a fait un travail remarquable de fourmis, elle a retrouvé des documents policiers sur la question. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Je pense pas que l'un n'empêche l'autre, mais c'est vrai que je pense que ce qu'elle explique sur l'engagement du chercheur et l'engagement politique est peut-être un petit peu moins finalement fouillé, intéressant que ce qu'elle explique sur les émotions et personnelles du chercheur, qui sont totalement liées. Quand elle dit, je l'admets souvent mon travail par d'indignation et d'admiration. Oui. Et ça, c'est une phrase très belle et qui montre qu'on peut
sur laquelle on peut terminer.
Vous pouvez terminer.
Cette conversation sur le livre de Ludivine Bantini, L'œuvre du temps, aux éditions de la Sorbonne.
L'instant critique.
L'instant critique, on va être rapide car on a été long sur ces deux livres, mais vous l'aurez compris, intéressant, dont il était question ce soir. Catherine Portevin, vous vouliez nous parler ?
Alors, je voulais vous parler du roman de Sylvie Tanet qui s'appelle Un jardin en Australie, qui est publié aux éditions Grasset. Alors, Sylvie Tanet est critique littéraire aux Un Roc, à l'excellent site AOC, et elle publie ce deuxième roman. J'y ai pensé à elle parce que c'est vraiment le roman palimpseste, je viens de le lire. Il s'agit simplement il y a une unité de lieu qui est une maison à Salinasburg, qui est une petite cité minière au cœur, au centre de l'Australie, dans un paysage extrêmement hostile, aride, et où dans cette maison, une jeune Française s'installe avec sa famille, et elle dialogue parmi les morts avec une autre femme, Anne, qui elle a habité cette maison dans les années 30. Et donc le roman est extrêmement simple, construit simplement dans ce dialogue entre le spectre, Anne, et la nouvelle arrivante, Valérie, l'une voyant l'autre, c'est-à-dire le privilège des morts, c'est de pouvoir voir les vivants, ce qui n'est pas réversible.
C'est vous qui le dites, Catherine Portevin.
Donc,
rappelez-nous, c'est voilà, un jardin
en Australie. Sylvie Tanet, c'est un roman extrêmement doux et très profond.
Chez Grasset, donc. Sonia Faure.
Oui, j'ai failli vous parler de l'excellente exposition Le modèle noir au musée d'Orsay, mais France Culture en a déjà beaucoup parlé. Et donc, j'ai plutôt choisi finalement de parler de la pièce de théâtre Que viennent les barbares de Myriam Marzouki et Sébastien Le Potvin, dont finalement la réflexion est assez proche, parce qu'il s'agit de savoir quelle place on donne ou on ne donne pas aux personnes dont la peau n'est pas blanche, justement, dans le récit national. Myriam Marzouki, elle avait déjà monté une précédente pièce qui s'appelait Ceux qui nous regardent et qui parlait de la manière dont on regarde justement les femmes voilées. Et les femmes qu'elle avait rencontrées pour préparer ce spectacle d'alors lui avait expliqué qu'elles avaient le sentiment qu'on ne les regardait, enfin, de prime abord, on ne les regardait pas comme des Françaises. Donc Marzouki s'était posé la question à qui on accorde justement d'emblée, dès le regard, la citoyenneté française. Et dans Que viennent les barbares, donc la pièce qui joue aujourd'hui, on croise James Baldwin, on croise Toni Morrison, Mohamed Ali, Claude Lévi-Strauss, Jean Sénat, qui sont d'ailleurs souvent indifféremment incarnés par des Noirs, des Arabes, des hommes ou des femmes, et qui, il y a des rencontres fictionnelles entre eux, des anachronismes qui sont tout à fait passionnants. Le texte est un petit peu trop didactique peut-être, mais c'est d'une grande clarté, c'est très bien joué, c'est assez drôle.
Donc la pièce de Myriam Marzouki.
Alors qui jouait à la MC de 93 de Bobigny, qui a joué à Reims et qui maintenant part à Saint-Brieuc,
tournée.
Grenoble, Béthune, Dijon.
Oui, il y a une grande tournée, on mettra un lien sur la page de Avis Critique. Merci à toutes les deux, Avis Critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Denet à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar à la prise de son, Pierre Monteil. Cette émission, vous pouvez évidemment la télécharger, la réécouter, vous abonner au podcast sur franceculture.fr à la page d'Avis Critique. Dans quelques instants, Jukebox.
Mmh.